Au gré du temps, passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois micro. C'est un grand comédien que nous recevons aujourd'hui. Il exerce son métier depuis plus de 40 ans. Il a joué dans des téléromans qui ont marqué notre télévision. Pensons à l'extraordinaire « Sous le signe du lion » de Françoise Leranger dans sa deuxième version, celle de 1997, mettant en vedette également le regretté Jacques Godin. Au gré du temps, on le retrouvera dans des dizaines de productions au théâtre. Pendant près de 20 ans, il enseignera aussi à l'École supérieure de théâtre de l'UQAM. On accueille avec grand plaisir et avec grande joie Denis Paris. Bonjour.
Bonjour.
Passez une bonne semaine.
Oui.
Oui. Oui. On sent que l'hiver approche, mais on n'a plus les hivers rigoureux qu'on a déjà connus.
Non. Mais j'ai rien contre.
Moi, je serais intéressé, probablement que les auditeurs aussi, à savoir comment on devient un jour comédien. Bien sûr, comment on s'y prépare, ça, il y a des écoles pour cela, mais il faut qu'il y ait probablement une petite flamme à l'intérieur de soi.
Ah oui, ah oui.
Et vous, c'est arrivé comment? Très jeune?
Ah, moi, oui, très jeune. J'allais voir mon cousin jouer au théâtre, Jean-Louis Paris. Donc, j'ai les premières pièces de théâtre que j'ai vues, j'avais 10 ans. J'allais le voir jouer à l'époque où le TNM était à la salle de Jean, à la salle de chez Duceppe, maintenant, qui s'appelait le Théâtre Port-Royal.
Oui.
Le TNM était là, puis là, bien évidemment, je voyais les comédiens après ça sortir en coulisses avec, je me souviens que j'avais vu Shakespeare, et puis là, bien, Gilles Pelletier dans sa toge, et puis évidemment, les comédiennes, je veux dire, avec leurs costumes extraordinaires, moi, je... Et, bien, à force de fréquenter, puis de voir, puis d'aller voir mon cousin, bien là, tout à coup, j'ai toujours imité mes professeurs. J'imitais mes professeurs, donc...
Dès que vous étiez à l'école, au primaire?
Ah oui, à l'école, au primaire. Oui. Absolument, et mais particulier... Ah oui, je me souviens, en septième année, M. Dion, qui était notre professeur de mathématiques, parce qu'à l'époque, il y avait une septième année.
Oui, c'est vrai.
Et mon Dieu, je l'imitais, puis là, ça faisait rire tout le monde. Et
vous en faisiez une caricature, en quelque sorte.
Pas vraiment, non? Parce que j'ai un talent d'imitateur... moi je pourrais dire, je caricature pas, moi j'imite. Par exemple, évidemment, une de mes imitations, ben, j'en ai fait plusieurs. J'imite André, j'imite...
Janine Suteau, dis-toi.
Janine, évidemment. Janine, même qui me coachait à la fin, qui me disait, je vous donne une idée. Alors là, mon petit Denis, moi j'aime autant dire que là, tu m'imites comme quand t'avais ton âge. Alors là, cher, il va falloir que tu t'enlèves une batterie parce que moi, il ne me reste pas autant d'énergie que ça. Alors, j'ai ralenti comme ça, et je l'ai imité comme ça, et je lui ai dit, est-ce que vous aimez ça, Janine? Elle m'a dit, garde ça, c'est très bon. Elle m'a enseigné, Janine.
Et c'est émouvant de faire, d'entendre revivre Janine Suteau comme ça.
Je vais faire plusieurs imitations pour un spectacle bénéfice qui va être animé par Béatrice Picard, avec qui j'ai joué aussi, pour les petits frères, au mois d'octobre.
Et Béatrice, qu'on a reçue il n'y a pas très longtemps, qui est... quand même, elle avait un âge vénérable, peut-on dire.
Mais qu'est-ce qu'elle est incroyable.
Et elle rêve encore, me disait-elle, de monter un spectacle où elle sera seule sur scène.
Oui, 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 un solo.
C'est incroyable.
Elle est incroyable, effectivement.
Cette flamme-là, vous l'avez presque tous, les grands comédiens comme vous, avez tous cette flamme qui fait que on veut pas arrêter.
Non, non, on veut pas arrêter un comédien. Ça connaît pas ça, une retraite. C'est impossible. Justement, Janine a joué Les Belles-Sœurs à Paris. Elle avait 90 ans. C'est une des dernières fois qu'elle a joué, mais quand même. Je veux dire, c'était quelque chose.
Ben, c'est un élan du cœur que vous avez tous.
Oui, oui. Puis particulièrement le théâtre.
Nanette Workman dirait,
donne, donne, vous donnez toujours.
Oui.
Une autre femme explifère à la flamme de ton regard, un ton qui s'ennuie et qui chôme. Je voudrais pouvoir te consoler et te faire oublier que ta lettre s'est tombée. Donne, donne quelques heures de ton temps et garde ton sang-froid.
Je reviens à, après avoir entendu Nanette Workman avec Denis Paris, qui nous parlait de ces imitations qu'il faisait dès que vous étiez très jeune à l'école.
Oui.
Est-ce que vous saviez déjà que jouer serait pour vous quelque chose qui occuperait probablement une grande partie de votre vie?
Oui.
Déjà?
Ah oui. Oui. Et puis, comment je pourrais vous dire? J'ai pas le... ce qu'on appelle le killer instinct. Je suis pas un être de compétition. Je suis pas quelqu'un qui serait prêt à vendre sa mère pour un rôle. Non, j'ai jamais été.
Vous défoncerez pas des murs.
Je défoncerai pas des murs, non. Mais j'ai eu la chance d'avoir des rôles qui se sont enchaînés. Bon, c'est sûr que là...
Mais le talent, il est pour beaucoup aussi. Il y a la chance, oui, mais il y a le talent également.
Ben, je pense que oui. J'ai vraiment joué des beaux rôles. Louis Lalande me donnait des très beaux rôles. Pendant deux étés à Saint-Adèle, m'a vraiment donné deux rôles extraordinaires.
À titre d'exemple.
Un par exemple, ben, ma femme s'appelle Maurice. C'est une pièce de Raffi Chart. Cette pièce, l'auteur est venu de Paris. Il devait rester un soir, puis il est venu voir la représentation trois soirs.
Ça, c'était au Chanteclerc.
C'était au Chanteclerc. Ben, c'était un rôle extraordinaire. Puis c'est que Bush faisait des imitations, d'ailleurs. C'était écrit, c'est un vaudeville. Et ça m'a valu des critiques, mais vraiment dithyrambiques. Titré les critiques. C'est très rare que ça arrive. C'est la seule fois, d'ailleurs, dans ma carrière où c'est arrivé. Mais c'était genre Denis Paris, sublime, splendide, partout. Le Journal de Montréal, la presse. C'était comme... D'ailleurs, j'avais fait des émissions de radio, d'ailleurs, parce que j'avais dit, ben c'est comme gagner un Oscar, finalement.
Ça fait du bien à l'âme, ça aussi.
Oui, ah oui, ah oui. Surtout, j'avais énormément de plaisir à jouer ce rôle-là. Oui.
Est-ce que ces moments de grâce, parce qu'on peut parler d'un moment de grâce quand ça survient,
ah ouais.
Est-ce que ça nous transporte littéralement et ça nous pousse à autre chose, à vouloir davantage?
Ben peut-être pour certains, moi non.
Non.
Moi non. Moi je me satisfais très bien de façon d'aller plus loin, c'est presque impossible. Je veux dire, c'est toujours... Moi, j'ai toujours la même rigueur. Et puis, j'ai toujours la même générosité quand je joue un rôle. Puis le meilleur, ben, ça va être le prochain.
On va faire une petite pause de Noël, si j'ose dire.
Oui.
Parce que ça approche quand même.
Oui.
Ça, la chanson qu'on va entendre, c'était la chanson, une des chansons préférées de votre maman.
Oui, exactement. Qui nous a quittés le 7 août dernier. 7 août 2020. Ouais.
Have yourself
a little Merry Christmas,
Bing Crosby.
Have yourself a merry little Christmas. Let yourself be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Until then we'll have to muddle through somehow. So have yourself a merry little Christmas now.
Here we are as in olden days, happy golden days of yore.
Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now.
Toujours une chanson qu'on écoute année après année avec la même joie.
Oui.
Dans votre cas, elle a une signification peut-être plus grande parce qu'elle vous rappelle votre maman.
Oui.
Qui est décédée, disiez-vous, récemment.
Oui, ben, l'année dernière.
Elle avait quel âge?
84 ans.
Quand même.
Oui. Mais c'était difficile, c'était la dernière année avant sa mort. C'était difficile parce qu'elle souffrait de démence, alors c'est pas évident.
Est-ce que votre enfance, vous parliez de votre cousin Jean-Louis Paris, de façon générale, vous avez baigné dans une enfance heureuse?
Oui.
Oui.
Oh oui, oh oui. J'étais... je suis un enfant né du plateau, hein. Je suis un enfant du plateau. Et j'avais ma grand-mère maternelle et mon grand-père qui habitaient... On a toujours habité très proche de chez mes grands-parents maternels. Et le parc Laurier, c'était mon parc. Et on habitait sur la rue Christophe-Colomb. Puis quand mon père puis ma mère se chamaillaient, je faisais ma valise, puis je m'en allais chez ma grand-mère, mon grand-père, qui était sur la rue Montana. Il y a la maison qui fait le coin Montana-Laurier.
Pas besoin de prendre le train, là.
Ah non, non. Donc, je partais ma valise, puis je me disais, quand vous cesserez de vous chamailler, je reviendrai.
Vous avez parlé de Jean-Louis Paris. C'est curieux, parce que le souvenir qu'on a de Jean-Louis Paris, c'est le comédien, le genre de comédien qui pouvait jouer aussi bien des rôles dramatiques que des rôles drôles.
Oui, il était
un
drôle.
Un peu comme Jean-Louis Millette. Jean-Louis Millette a joué des rôles dramatiques d'une très grande profondeur et pourtant, on le retrouvait dans des séries comme Symphorien, par exemple,
où
il jouait justement avec Jeannine Suteau.
Oui, oui. Ah oui, Jean-Louis, c'était un grand ami, Jean-Louis. Ça me fait beaucoup de peine. Ben, comme Besserée, Dufresne, autant du Pelle, c'est des morts qui m'ont beaucoup chagriné parce que j'étais très près d'eux. Mais Jean-Louis, j'ai joué avec lui... J'ai des souvenirs énormes avec les Feluettes de Michel-Marc Bouchard qu'on a joué à Paris, mise en scène par Brassard.
Oui.
On a joué presque 2 mois et demi, puis après on a fait une tournée d'une douzaine, même d'une quinzaine de villes, je ne me souviens plus très bien. Mais alors c'était fabuleux. Puis avec Jean-Louis, on avait... louer, achat une voiture, puis quand on avait 3 jours en 2 spectacles, on visitait, puis on avait fait tous les châteaux de la tour, de la Loire. C'était fabuleux.
Des souvenirs inoubliables.
Oui.
Des souvenirs de voyage. Voyage, Alexandre Poulain.
Au-dessus des vieux volcans, glisse tes ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vol dans les hauteurs. Au-dessus des capitales, des idées fatales. Regarde l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage dans l'espace infini de l'amour. Voyage sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage et jamais ne reviens. Sur le Gange ou l'Amazone, chez les blacks, chez les sikhs, chez les jaunes. Voyage, voyage, dans tout le royaume. Sur les dunes du Sahara, des îles Fidji au Fujiyama. Voyage, voyage, et ne t'arrête pas. Au-dessus des barbelés, au-dessus des cœurs bombardés, regarde l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage dans l'espace infini de l'amour. Voyage sur l'eau sacré d'un fleuve indien. Voyage et jamais ne reviens. jamais ne revient. Voyage, voyage, et jamais ne revient. Voyage, voyage, et jamais ne revient. Voyage, voyage, et ne revient jamais.
Vous parliez, Denis, de vos voyages à l'extérieur quand vous jouiez. Vous avez parlé des Feluettes. Ça, c'était en 90.
Oui.
Le fait de jouer à l'extérieur, dans un autre contexte culturel, est-ce que ça demande une capacité d'adaptation? Parce que le public ne doit pas réagir de la même façon.
Non, les Français ne réagissent pas du tout de la même façon. Ils ne font pas, par exemple, d'ovation. C'est excessivement rare. Sauf qu'il nous faisait revenir au salut, il pouvait nous faire revenir 10 fois.
C'est vrai?
Oui. Et d'ailleurs, on était arrivé 6e pour les Molières. La directrice du théâtre, Madonna Bouglione, était bien découragée parce qu'elle aurait aimé ça, évidemment, qu'on passe aux Molières. Mais quand même, avec 500 levées de rideau dans une ville, arrivé 6e. On avait eu des critiques dithyrambiques, beaucoup, beaucoup de... Il y avait plusieurs comédiens qui avaient fait la tournée Napoléon Lama de Serge Lama. Alors, Serge Lama est venu voir le spectacle. Tout Paris venait voir le spectacle. Muriel Robin, même qu'on allait... On allait manger avec elle après dans les Halles, l'Amazoniale. En tout cas, on s'est fait beaucoup de... C'était très convivial. On était vraiment reçus. C'était formidable.
Est-ce que vous reprendriez le chemin de la tournée?
Oui.
Oui?
Ah oui. Oui, j'adore ça. Ah oui, vraiment, la tournée, c'est formidable.
Pour la franche camaraderie qu'on développe également, je présume?
Oui, puis moi, c'est ça, j'ai quand même eu la chance d'être avec tout le temps avec des groupes, des comédiens, camarades extraordinaires. Non, vraiment, c'est un plaisir.
Est-ce que vous avez joué avec des acteurs français, des comédiens français également?
Là-bas, non.
Non.
Ben non. Non, on était tous des Québécois, mais par contre, je me suis fait des amis.
Oui. Si tel avait été le cas, je présume que ça demande là aussi une capacité d'adaptation, parce qu'il faut s'adapter à l'accent de l'autre, au jeu aussi. Le jeu est peut-être différent, non?
Non, ben,
pas nécessairement.
C'est-à-dire que pour moi, prendre l'accent français, comme disait Madonna Bouglione, tu arrives même à prendre les accents des arrondissements. Parce que c'est sûr que dans le 16e, ils ne parlent pas comme à Montparnasse ou...
ne parle pas Outremont comme on parle dans Schlagermaisonneuve.
Oui, c'est ça. Alors, quand ils me disent « Vous avez un accent », ils me font bien rire. C'est comme, il y en a à peu près 12 000 accents en France. Mais non, puis quand je suis un imitateur, j'ai beaucoup, beaucoup d'oreilles. Alors ça aussi, comme parler anglais, je dirais, ils en reviennent pas. Parce nous, on est un peu une culture anarchique. Hein? On a la culture américaine, britannique et française, sans oublier aussi des Premières Nations. Fait que ça fait de nous du monde spécial sur la planète.
Ben, Juliette Gréco, elle aussi a pu adapter une chanson italienne au départ, Volare.
Oui, quelle femme extraordinaire.
Le vrai titre était Nel Blu di Pinto di Blu.
Oui.
Et c'est Juliette Gréco qui nous interprète le tout. Oh, quelle découverte!
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipinge voi le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso finivo dal vento rapito. E incominciavo a volare
nel cielo infinito volare. Di stare lassù e volavo, volavo felice, più in alto del sol ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare. Oh, oh, oh. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. I sogni nell'alba svaniscono perché, quando tramonta la luna, li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Gli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Vola. Gli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te.
Denis Paris est avec nous, celui qui on l'a dit la semaine dernière a interprété ce rôle de Tycoon. Je veux revenir sur ce rôle. C'est curieux parce que c'était un rôle, ce n'était pas un rôle muet, mais c'était un rôle sans parole, on pourrait le dire comme cela, où vous exprimiez des émotions quand même très intenses.
Oui.
Moi, j'ai en tête une séquence, peut-être ça va vous revenir à l'esprit, c'est l'émission qui avait été faite spécifiquement pour le temps des fêtes, où le notaire doit aller à la chambre arrière, à l'extérieur.
Oui.
Et c'est Tycoon qui doit l'accompagner.
Oui.
Et le jeu qui se joue entre Gérard Poirier, qui représentait le notaire à ce moment-là, et vous, qui avez quand même un certain respect à l'égard du notaire, mais bon, il faut faire ce qu'il faut faire.
Oui, exactement.
C'est une belle scène,
ça. Ah oui, ça, mais ça, on a eu du plaisir. Oh, mon Dieu, moi, j'ai souvent eu des fous rires avec Gérard. Parce que Gérard m'enseignait en troisième année au conservatoire l'interprétation. Alors, c'était un camarade, mais c'était un de mes profs. Mon prof. Alors, Gérard, c'était toujours un plaisir de travailler avec lui. C'est toujours un plaisir. Je veux dire, il avait tellement un humour extraordinaire. Et je me souviens qu'on est obligé d'arrêter la scène parce que on a repris deux fois la scène.
À cause des fous rires, je présume.
Ah ben, les fous rires. Avec Nicole, j'en ai eu aussi des énormes et des splendides. Mais cette fois-là, avec Gérard, là, quand à un moment donné, il avait improvisé « Mon Dieu, qu'on est loin de la civilisation! » Alors, là, vraiment...
Ah, ça, c'était pas prévu, ça.
Non, c'était pas prévu parce qu'on pouvait improviser un peu, là.
OK.
Oui, Pierre nous avait dit de... On avait le libre cours pour improviser un petit peu. « Mon Dieu, que j'avais ri! »
Mais comment on réalise à incarner un rôle comme celui de Ticoun? Dans la mesure où vous ne parlez pas, mais vous devez exprimer des sentiments.
Ben, je choisissais. Je choisissais ce qu'ils comprenaient et ce qu'ils ne comprenaient pas. Puis Pierre et Yvon me faisaient parfaitement confiance. Et j'avais... Dans la première année, ils s'exprimaient moins parce qu'évidemment, je mettais au monde un personnage.
Ouais.
Mais j'avais... Il, quand même, il nommait sa Rosanna, il l'appelait Ma.
Oui.
Mémé Bouchard, il l'appelait Mé.
Oui, c'est vrai.
Puis Noëlla, il l'appelait Na. Fait que ça, c'était de mon propre cru. Mais Pierre écrivait des didascalies, voyons, vas-tu dire, des didascalies qui m'inspiraient.
OK.
Et Yvon, ben, comment je vous dirais, et il me disait, bon, là, dans cette scène-là, je veux que tu fasses brailler 3 millions de spectateurs. Alors là, tu vas mettre le paquet.
Ça lui ressemble.
Tu vas mettre le paquet. Alors, je dis, ben oui, c'est parfait, OK, d'accord. Je dis, une petite charge. OK. La charge de l'orignal n'est pas remiable. Non, mais c'est ça. Mais il y avait des scènes qui étaient difficiles parce qu'il fallait les reprendre pour la technique. Puis c'était des scènes qui étaient très émotionnelles, très, très difficiles. Les scènes de la grange, là, puis tout ça. Je me souviens qu'une fois, je me suis arrêté. Et puis, là, la prise était bonne, mais je me suis assis par terre, puis j'ai pleuré comme un bébé. Il fallait que ça sorte, là, parce que, à un moment donné, c'est ça. C'était trop. Mais, puis j'avais aussi la troisième année, le grand bonheur de jouer à Médée, c'était...
Le frère jumeau.
Le frère, oui, ça, c'était formidable.
Ouais. C'est de beaux souvenirs à se rappeler. Ça nous permet d'enchaîner Try to Remember.
Oui.
Avec Harry Belafonte. Votre maman aussi aimait cette chanson.
Ah oui, celle-là aussi. Oui, c'est une des dernières qu'elle a chantées avant de commencer à faire de la démence parce qu'elle avait une très jolie voix.
Et on enchaînera tout de suite avec Nana Mouskouri, la version française au cœur de septembre.
Oui.
Try to remember the kind of September when life was slow and oh so mellow. Try to remember the kind of September when grass was green and grain was yellow. Try to remember the kind of September when you were a young and callow fellow. Try to remember, and if you remember, then follow. Try to remember when life was so tender that no one wept except the willow. Try to remember when life was so tender that dreams were kept beside your pillow. Try to remember when life was so tender that love was an ember about to billow. Try to remember, and if you remember, then follow. Deep in December, it's nice to remember, although you know the snow will follow. Deep in December, it's nice to remember, without a hurt,
the heart is hollow. Deep in December, it's nice to remember the fire of September that made you mellow. Deep in December, our hearts should remember and follow.
De septembre, entre la pluie et l'hirondelle, seul dans ma chambre, au cœur de septembre, quand vient la nuit, je me rappelle, seul dans ma chambre, nous vivions ensemble. Était tendre et belle, belle. Le ciel de septembre, plus gris que bleu, tu te rappelles l'arbre qui tremble au vent de septembre. Attendre à l'ombre bleue des feuilles.
Perte d'une maman, c'est toujours quelque chose de douloureux, quel que soit son âge.
Oui, oui, parce que quand j'ai perdu mon ami André La Chapelle, j'ai eu une peine immense. Puis c'est ça, ma mère, c'est un an après. Fait que c'était deux deuils, gros deuil. Mais Nathalie Gadois m'avait dit, attends, quand tu vas perdre la tienne, tu vas comprendre, tu as de la peine, parce qu'évidemment... André, tu étais très proche, mais elle dit, attends, tu vas voir que la tienne, ça va être un tremblement de terre, effectivement. C'est un tremblement de terre. C'est comme si on nous poussait en bas d'un avion avec un parachute sans avoir jamais expérimenté la chose.
Alors, pour tous ces gens que nous avons aimés et qui sont maintenant disparus, on va se permettre d'écouter en silence... avec beaucoup d'émotion, le Largo de la sonate pour piano numéro 2 en La majeure, opus 2 de Beethoven, interprété par le grand pianiste Wilhelm Kampff.
Thank you.
Beethoven demeure toujours à la mode, mais vous savez quoi? La pandémie a fait oublier l'anniversaire de Beethoven en 2020.
Ah,
il devait y avoir des fêtes extraordinaires parce qu'il est né en 1770, donc c'était son 250e anniversaire de naissance. Et la majorité de ces festivités ont été annulées. Donc Beethoven, encore une fois... a joué de malchance.
Ben oui.
Comme il avait joué de malchance avec son audition, il n'a jamais pu entendre sa 9e. Et Dieu sait que c'est un chef-d'œuvre mondial.
Oui, mais comme moi, très souvent, je vis dans le silence et puis j'entends. J'entends des chansons, j'entends des notes, j'entends comme la sonate au clair de la lune, par exemple. On a posé la question à Annie Lennox. On a demandé est-ce que vous écoutez beaucoup de musique. Puis elle avait répondu non. Le silence, je les entends. Alors, où je les chante a cappella.
Et les grands compositeurs, souvent raconte-t-on, entendent ce qui va se créé par la suite avec l'orchestre. Mais ils l'ont entendu. Il y a une belle scène, si vous vous souvenez, dans le film Amadeus, même si c'est une scène qui n'a jamais existé, mais lorsque Mozart est sur son lit, qu'il crée le Requiem, il entend chaque part de l'instrumentation de l'orchestre.
Absolument.
Et c'est merveilleux, ça.
Oui, mais il paraît que ça se passe aussi comme ça.
Oui, une superposition de sons.
Oui.
Est-ce que vous, il vous arrive d'entendre des monologues ou des dialogues de théâtre, de récits?
Non, ben ça, comme je vous dis, il y a des, parfois ça me revient, des textes me reviennent, des textes que j'ai, mon Dieu, que j'ai joués il y a 15 ans, 20 ans, et j'aime ça pour travailler ma mémoire, les redire. Comme par exemple, je sais pas moi, je me souviens même de Triplev de Tchekhov, une scène que j'avais travaillée avec Jeannine Souteau. Alors je dis, c'est comme, bon, j'aime ma mère, je l'aime profondément, mais elle mène une vie absurde et elle n'arrête pas de s'afficher avec cet écrivain, son nom traîne dans tous les journaux, c'est lassant à la fin. Je regrette d'avoir pour mère une actrice. J'aurais aimé avoir une mère ordinaire. Puis là, ben, mon oncle, quelle situation plus désespérante, plus stupide que la mienne. C'est ça. Des réminiscences de textes que j'ai joués. Les comédies, non, mais c'est drôle, hein, mais c'est souvent les drames ou les tragédies, les textes classiques qui nous reviennent, qu'on garde.
Ceux qu'on a travaillé beaucoup.
Ben oui, parce qu'on les travaille plus, évidemment.
Évidemment. On enchaîne avec Barbara.
Oui.
Il y a une raison à cela.
Barbara. Mon Dieu, j'ai tellement écouté Barbara, je connais toutes ses chansons par cœur. Alors, c'est comme ça que je les chante à cappella.
Alors, la chanson pour titre?
Vienne.
Si je t'écris ce soir de Vienne, j'aimerais bien que tu comprennes que j'ai choisi l'absence comme dernière chance. Notre ciel devenait si lourd. Si je t'écris ce soir de Vienne, oh que c'est beau l'automne à Vienne. C'est que sans réfléchir, j'ai préféré partir et je suis à Vienne sans toi. Je marche, je rêve dans Vienne, sur trois temps de valse lointaines. Il semble que des ombres tournent et se confondent, qu'ils étaient beaux les soirs de Vienne. Ta lettre a dû croiser la mienne, non, je ne veux pas que tu viennes. Je suis seule et puis j'aime être libre, oh que j'aime cet exil à Vienne sans toi. Une vieille dame autrichienne, comme il n'en existe qu'à Vienne, me loge dans ma chambre tombe des pourpres et d'ambre, de lourdes tentures de soie. C'est beau à travers les persiennes, je vois l'église Saint-Étienne. Et quand le soir se pose, c'est bleu, c'est gris, c'est mauve, et la nuit par-dessus les toits. C'est beau, Vienne, c'est beau, Vienne. Cela va faire une semaine déjà que je vis seule à Vienne. C'est curieux le hasard, j'ai croisé l'autre soir nos amis de l'Untachimo. Cela va faire une semaine, ils étaient de passage à Vienne. Ils n'ont rien demandé mais se sont étonnés de me voir à Vienne sans toi. Moi, je me promène, je suis bien. Et puis de semaine en semaine, voilà que je vis seul à Vienne. Tes lettres se font rares, peut-être qu'autre part tu as trouvé l'oubli de moi. Je lis, j'écris, mais quand même, pour qu'il est long l'automne à Vienne. En ce lieu de place où la nuit je me glace, tout à coup j'ai le mal de toi. Que c'est long Vienne, que c'est loin Vienne. Je t'écris ce soir de Vienne, chérie, c'est qu'il faut que tu viennes. J'étais partie, pardonne-moi, notre ciel devenait si lourd. Mais toi de Paris jusqu'à Vienne, au bout d'une invisible chaîne, tu me guettais, je pense, jouant l'indifférence, et tu m'as gardé malgré moi. Il est minuit ce soir à Vienne, mon amour, il faut que tu viennes. Tu vois, je m'abandonne, mais il est si beau l'automne, et je veux le vivre avec toi. C'est bon, Vienne, avec toi, Vienne.
Vienne, Barbara, vous en fredonniez même en même temps qu'elle chantait les paroles.
Mon amour, il faut que tu viennes. J'étais parti, pardonne-moi. Le ciel devenait si lourd.
on se souvient surtout aussi de sa chanson à Nantes. Lorsqu'elle raconte son histoire avec son papa.
Oui.
L'arrivée tardive, quoi.
Oui. Alors, c'est une belle chanson. Mais toutes ces chansons sont magnifiques.
Tout à fait. Le temps nous bouscule. On arrive presque au terme de l'émission. J'aurais tendance à vous demander si... Parce que vous avez parlé beaucoup de silence. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui vous a donné à la méditation? Le silence est important.
Oui. Oui, je médite. Oui. Je veux dire, non, j'ai fait beaucoup de, comment je pourrais dire, de dans ma vie, de magasinage spirituel. J'ai fait partie de le mouvement spirituel. Mais de tout ce que j'ai expérimenté, il me reste beaucoup le bouddhisme. C'est ce que je préfère, le bouddhisme. Et c'est vivre le moment présent. Le plus possible, et méditer, oui, effectivement. Ça change la fréquence. Oui, ça nous fait monter en mode alpha un peu plus, puis ça nous calme le pompon.
Alors là, on va aller en phase, peut-être pas alpha, ni oméga, on serait peut-être dans l'epsilon. En fait, je vais vous mentionner quelques mots. Et j'aimerais que vous m'évoquiez le mot qui surgit instantanément à votre esprit en l'entendant.
Okay.
Alors, si je vous dis « regard ».
Ne pas vivre dans le regard des autres.
Fleur.
Rose.
Demain.
Soir.
Et en terminant, espérance.
Vie.
Ben, vous êtes un être très vivant. Merci beaucoup, Denis Paris, d'être venu à notre micro.
Merci.
C'est vraiment un beau moment que nous avons passé en votre compagnie. Ça nous permet aussi de mieux comprendre ce qui se vit dans l'anima d'un comédien de votre valeur.
Ben,
et
merci.
C'est vraiment très, très apprécié. On va vous souhaiter une belle période des fêtes également. Ça
merci.
Approche à grands pas.
Oui, merci.
On ne sait pas si on aura de la neige, mais espérons que la nouvelle année qui arrivera dans peu de temps sera meilleure que les deux dernières au plan de l'aspect relationnel.
Oui, ben, de toute façon, ça va se passer chez mon neveu, avec mon frère et ma belle-sœur.
Bon. Alors, le temps de vous dire que cette émission a été réalisée sous la supervision technique de Pierre Degagné, Armand Dubois, la réalisation et l'animation. Notre invité cette semaine était Denis Paris. On lui souhaite plein de beaux projets et je suis certain qu'on va entendre parler de vous encore longtemps. Et c'est ce que nous souhaitons pour notre grand plaisir.
Merci de m'avoir reçu.
Alors, on se quitte avec une pièce musicale. C'est Marc Hervieux, un de vos amis d'ailleurs.
Oui, oui, j'ai connu Marc. Ben là, on ne se voit pas parce qu'évidemment, il est très, très occupé, mais...
Alors, une chanson qui est presque de circonstance, « Le temps, ce n'est que de l'amour ».
Oui, vive l'amour.
Pour que la terre reste le plus beau des jardins, faudra semer à ton tour des petits tout et des tout petits rien, et sans attendre en retour.
Pour que la terre reste le plus beau des jardins, faudra semer à ton tour des petits tout et des tout petits rien, et sans attendre en retour. Et quand tu ouvres ton cœur à rêver de jours meilleurs, et sache bien qu'à toutes les heures et tous les jours, le temps, ce n'est que de l'amour. Le temps, ce n'est que de l'amour.
Le temps, ce n'est que de l'amour.
Pour que ta vie soit le plus divin des voyages, faudra ouvrir grand les ailes comme un souffle caché dans tes bagages. Je serai ta courte échelle pour que tu ouvres ton cœur à rêver de jours meilleurs. Et sache bien qu'à toutes les heures et tous les jours, le temps, ce n'est que de l'amour. Le temps, ce n'est que de l'amour. Noël bercé réalise tes rêves, faudra donner espoir au jour, suivre ton étoile même dans les vents contraires, croire au meilleur devant nous. Et quand tu ouvres ton cœur à rêver de jours meilleurs, et sache bien ce n'est que de l'amour. Le temps, ce n'est que de l'amour.